mariage est-il démodé? Non, bien sûr. Et pourtant, quand on voit ce qui se passe autour de nous, surtout dans nos pays occidentaux, on serait tenté de répondre par l'affirmative à cette question. Beaucoup de gens préfèrent rester célibataires aujourd'hui parce qu'ils constatent que beaucoup de mariages ne sont pas heureux. Ils ne veulent donc pas se lancer dans une institution où les risques semblent importants. D'ailleurs, l'un des hommes les plus riches du monde, après 4 mariages ratés et malheureux, a déclaré qu'il aurait volontiers donné tous ses millions pour un seul mariage heureux. Quelle triste déclaration. Malheureusement, il n'est pas le seul à penser ainsi. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi serait-il si difficile d'avoir une famille heureuse ou vivre dans une atmosphère familiale paisible et harmonieuse? Une chose est sûre, chers frères et sœurs, si les couples mariés respectaient les lois du mariage que Dieu a édictées, nos foyers seraient un centre de joie où chaque membre de famille vivrait heureux jusqu'à la fin de ses jours. Mais il n'est pas trop tard. Si vous voulez faire les changements nécessaires dans votre vie pour améliorer votre vie de famille. Oui, chers frères et sœurs, vous pouvez mener une vie heureuse, paisible et joyeuse. Vous pouvez avoir des enfants forts et en bonne santé, malgré les nombreux échecs que vous voyez autour de vous. En fait, je dirais même que non seulement c'est possible, mais que cela fait partie du plan de Dieu pour chaque être humain. C'est le Dieu éternel qui a établi l'institution du mariage dès le début. Il l'a fait pour que nous puissions jouir de la vie d'une manière saine et agréable. Veuillez vous reporter à Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Dans Genèse, au chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. » Vous voyez, chers frères et sœurs, l'homme et la femme, mâle et femelle. Dieu l'a béni et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez, chers frères et sœurs, voilà le commencement de toute chose. Voilà le commencement de notre société. Et permettez-moi de vous donner quelques conseils, ou plutôt de vous révéler quelques principes bibliques qui, mis en pratique, vous permettront d'avoir une famille heureuse ou de fonder un foyer solide, capable de résister à n'importe quelle circonstance hostile. Dans le psaume 127, verset 1, nous lisons, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. C'est la clé du succès dans la vie de famille. C'est la clé du succès dans tout ce que nous faisons. Dans toutes nos entreprises, toujours travailler avec Dieu, main dans la main. Car c'est lui qui parle de la pierre angulaire dans l'institution du mariage. Si vous avez des enfants, passez plus de temps avec eux. Aidez-les à le respecter, à mieux le connaître et à suivre ses commandements. Encouragez vos enfants à lire et étudier la Bible. Je dis bien, non seulement lire la Bible, mais plus étudier la Bible. Mais surtout, donnez-leur vous-même le bon exemple. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants d'étudier la Bible et vous, à votre tour, vous n'étudiez pas la Bible. Dans de nombreuses familles aujourd'hui, les hommes et les femmes n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des besoins de leurs enfants. Il n'y a pratiquement pas de communication intime, ouverte et directe entre eux et leurs enfants. Les parents dignes de ce nom doivent partager non seulement leur temps avec leurs enfants, mais aussi leurs projets et leurs idées. Si vous avez des enfants, enseignez-leur les principes du succès, de la santé et du bonheur tels qu'ils sont révélés dans la Bible. Alors, mettez-vous tout de suite au travail, étudiez attentivement la Bible, approchez-vous de Dieu pour mieux le connaître. Si vous voulez que vos enfants soient assidus, vous devez l'être vous-même dans toutes vos activités. Et alors, voyant votre exemple, vos enfants vous imiteront. Malheureusement, l'intégrité est très peu répandue aujourd'hui. On parle peu de l'honnêteté. Je me rappelle, dans le passé, lors des élections présidentielles ici en Amérique, on parlait beaucoup de valeurs familiales. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ces choses-là. Parce que tout est permis. Beaucoup de gens cherchent à réussir à tout prix. Souvent au détriment des autres, parfois en abusant des liens d'amitié. Et ce qu'on voit, même dans la famille, on voit la trahison, on voit l'infidélité, et c'est comme allant de soi. Veuillez vous reporter à Malachie, au chapitre 2, verset 10. Malachie, au chapitre 2, verset 10. Nous lisons, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Continuons maintenant au verset 14. Du même chapitre. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin en toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu, chers frères et sœurs, prend beaucoup de considération quand il s'agit du mariage. Quand, pendant la cérémonie du mariage, on fait un vœu, on prend un engagement. La plupart du temps, on pense que l'engagement, c'est devant, peut-être envers son mari, ou bien envers sa femme, ou encore envers le ministre officiant. Mais rappelez-vous, chers frères et sœurs, quand vous prenez cet engagement, quand vous faites ce vœu, vous le faites à Dieu. L'engagement que vous avez pris lors de votre mariage, cet engagement est devant Dieu. Vous avez commis un pacte. Vous avez pris la responsabilité d'aimer votre épouse, d'aimer votre époux jusqu'à la mort. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas quelque chose qu'on peut badiner avec. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que nous devons donner le bon exemple en toutes circonstances. Si nous voulons que nos enfants apprennent à ne pas mentir, tricher ou voler, nous ne devons pas à notre tour mentir, tricher ou voler. Si nous voulons que nos enfants nous respectent, nous devons les respecter à notre tour. Si nous voulons qu'ils respectent l'autorité, nous devons respecter l'autorité en retour. La pire chose que nous puissions faire pour nos enfants est de leur dire une chose et de faire le contraire. En d'autres termes, l'hypocrisie ne permet pas d'avoir des enfants obéissants, ni une famille heureuse et unie. Dans cette ère de confusion générale où le matérialisme est devenu roi, nous devons tous apprécier les choses pour ce qu'elles sont. Nous devons remercier Dieu chaque jour pour tout ce que nous avons. Une vie qui n'est pas réglée ou régie par des lois ne peut que déboucher sur le malheur. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que le mariage est une institution établie par Dieu. Son but est de rendre heureux tous les membres de la famille. Le genre de vie qui mène les gens autour de vous ne doit pas être votre critère. Le seul chemin qui porte des fruits positifs, le seul chemin qui est bénéfique, le seul chemin qui mène au vrai succès et au vrai bonheur est celui que Dieu nous révèle à travers les pages de la Bible. Laissez-moi maintenant vous révéler un autre principe biblique dont l'application enrichira les relations entre tous les membres de votre famille. Trouvez le temps de prier en famille. C'est votre meilleure garantie contre les désaccords et les disputes au sein de la famille. Aidez à vos enfants à prier et priez avec eux de temps en temps. Chers frères et sœurs, la prière est essentielle pour notre croissance spirituelle. La prière est essentielle pour nous aider à avoir la force dont nous avons besoin, pour avoir la foi nécessaire, pour pouvoir surmonter nos difficultés et arriver jusqu'au bout. Le Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chers frères et sœurs, si nous ne prions pas, si nous ne demandons pas à Dieu de nous donner la force d'être violents d'une manière spirituelle, nous n'atteindrons pas notre but. Par contre, nous devons apprendre à nos enfants à prier et nous devons faire la même. Et, chers frères et sœurs, vous serez surpris des résultats. Malheureusement, dans de nombreuses familles, la prière n'est presque jamais prononcée. C'est pourquoi, je répète, la meilleure garantie contre les querelles et les malentendus familiaux c'est la prière. Il y a bien sûr des gens qui ne croient pas en Dieu, ce sont des athées. D'autres se désintéressent totalement des enseignements bibliques. Dans ce cas, comment s'étonner qu'il y ait tant de disputes et de malentendus au sein d'une même famille? Et c'est aussi, c'est vraiment écœurant lorsqu'on lit les actualités. Parce que s'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de suicides au sein même de la famille. Et comment s'étonner aussi que les jeunes se désintéressent de la religion de leurs parents. Parfois on se demande, mais pourquoi il n'y a pas de jeunes dans les assemblées? Où sont les jeunes? Quel dommage qu'en cette époque de confusion, peu de gens soumettent le problème à Dieu avec foi et confiance. Chers frères et sœurs, apprenez à vos enfants à se mettre à genoux et à prier tous les jours. Priez vous-même régulièrement. Donnez-leur le bon exemple. Ne vous excusez pas en disant que vous n'avez pas le temps de prier. Une chose est sûre, chers frères et sœurs, vous arrivez toujours à trouver le temps nécessaire pour faire ce que vous aimez. Vous avez toujours le temps. Quand il faut aller au mall, quand il faut aller au supermarché, quand il faut aller au cinéma, il y a toujours du temps. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en réalité, il n'est pas difficile de prier, car la prière est tout simplement une conversation intime avec notre Dieu, notre Créateur et notre Père. Nous lui parlons comme à un ami proche, et il nous répondra à travers les pages de la Bible, avec les enseignements qu'il nous donne. En toutes circonstances, le Dieu éternel doit être notre guide, notre rocher, notre soutien. Bref, il est notre Père suprême. Lorsque je parle de prière, je ne fais pas référence aux mots que nous répétons jour après jour. Je ne parle pas des mots que l'on répète jour après jour, des phrases que l'on répète, des demandes que l'on fait encore et encore. Ce n'est pas une vraie prière. Et une prière apprise par cœur n'a que peu de valeur. De l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7 à 8, le Christ a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Nous avons cette garantie quand nous allons vers Dieu, Dieu est toujours là. Dieu connaît nos problèmes, il connaît nos soucis. Il est toujours prêt à répondre à nos prières. Mais le Christ nous recommande avant tout de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Encore une fois, chers frères et sœurs, c'est notre attitude vis-à-vis de Dieu, notre attitude vis-à-vis de la vie, nos buts de la vie, ce que nous avons dans notre cœur. Le Christ nous a dit de prier en disant à Dieu que ton règne vienne. Savez-vous ce que cela signifie? En tant que membres de l'Église, nous attendons tous le retour du Christ. Nous savons que le Christ reviendra. Il l'a promis. Alors, quand nous demandons à Dieu que son règne vienne, nous demandons que le Christ revienne le plus vite possible pour établir son règne sur cette terre et pour mettre fin à la souffrance et au malheur ici-bas. C'est vraiment triste ce qui se passe autour de nous. En tant que membres de l'Église, nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu pour son appel, pour sa connaissance, mais surtout parce qu'il est plein de bonté, d'amour et de miséricorde pour nous tous. C'est ainsi que nous devons nous comporter au sein de notre famille, les uns envers les autres. Veuillez vous reporter à Proverbes au chapitre 18. Proverbes chapitre 18, nous allons lire le verset 22. Proverbes chapitre 18, verset 22. Quelque chose, chers frères et sœurs, parfois, nous prenons comme allant de soi. Et nous ne sommes pas reconnaissants vers Dieu. On s'y attend à avoir un bon époux, une bonne épouse, avoir des enfants. Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Avez-vous jamais pensé à cela? Avez-vous jamais réfléchi de prendre du temps pour réfléchir et de remercier Dieu d'avoir une bonne épouse, un bon époux, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un ou quelqu'une qui vous aime? Maintenant, reportons-nous à Proverbes chapitre 5, verset 18, ce que Salomon nous conseille ici, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Quel but d'avoir de planifier, de converger nos yeux sur le but d'avoir la joie, la paix, le bonheur avec la femme de notre jeunesse, notre épouse. Que ta source soit bénie et fais de ta joie de la femme de ta jeunesse. Verset 19. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ce charme, sans cesse épris de son amour. Et si nous continuons au verset 20, et pourquoi mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Quand nous sommes contents, Dieu nous a donné une épouse, Dieu vous a donné un époux, vous êtes satisfait de votre époux, de votre épouse. Vous n'avez pas besoin de regarder les filles ou les hommes du dehors. Vous n'avez pas besoin de regarder qui que ce soit. Parce que vous appréciez ce que Dieu vous a donné. Et Dieu nous a demandé de faire notre joie avec la fille, la femme de notre jeunesse, notre épouse. Et nous devons nous réjouir. Saviez-vous que, selon la Bible, nous méritons tous la mort? Et savez-vous pourquoi? Parce que nous avons tous péché et que le salaire du péché est la mort. Mais le Christ est venu payer la peine de nos péchés, ou encore l'amende de nos péchés, afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. C'est par la mort et la résurrection du Christ que nous avons maintenant la promesse de prendre naissance dans la famille de Dieu, de régner avec le Christ lors de son retour et de vivre éternellement. L'amour du Christ pour nous devrait servir d'exemple à l'amour que nous ressentons les uns pour les autres, non seulement dans la famille, mais aussi dans la société. Comme nous lisons dans Jean 3, verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Chers frères et sœurs, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Tous, Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Notre Dieu, notre Père Céleste, est notre Créateur. C'est lui qui nous a tous créés. Et Dieu lui-même nous aime tous, quel que soit, comme je dis, notre race, notre nationalité, notre langue. Et nous devons apprendre à vivre comme lui. Nous devons apprendre à pratiquer son mode de vie. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque Dieu nous a appelés dans son Église, il nous a donné des instructions, il nous a donné de la connaissance, mais par-dessus tout, son Esprit Saint, afin que nous puissions développer notre caractère, pour que nous puissions un jour prendre naissance dans sa famille. Si nous n'avons pas le caractère convenable, nous ne serons pas dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir cela un peu plus loin. Nous devons apprendre, chers frères et sœurs, à marcher dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Veuillez vous reporter au chapitre 5 d'Éphésiens. Et nous allons lire les versets 1 à 7. Éphésiens, chapitre 5. Verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. N'avez-vous jamais pensé à cela? Nous devons chercher à devenir des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Au verset 3, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Au verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le verset 5. Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. Nous devons sortir du monde. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être le sel de la terre. Quand nous considérons les choses de ce monde, quand nous suivons les exemples du monde au lieu de Dieu, au lieu de nous façonner à la façon de Dieu, chers frères et sœurs, Dieu dit que, il est clair que nous n'aurons aucun héritage dans le royaume de Dieu. Nous ne devons pas marcher comme le monde marche. Nous ne devons pas suivre leur sentier. Voilà pourquoi j'encourage les jeunes toujours de ne pas fréquenter certains endroits. En tant que membre de l'Église, en tant que chrétien, il y a des endroits à éviter. Il y a des films à éviter. Il y a des chansons de la musique à éviter. Parce que Satan, lui, il profite de ces choses-là pour nous attirer vers lui, pour nous éloigner de Dieu. Et ce qui arrive, la plupart des gens pensent, ah bon, oui, c'est pas si grave, hein, on peut faire ça, et puis bon, puisque tout le monde le fait. Reportons-nous maintenant à Hébreux au chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, l'apôtre Paul nous dit ici que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous savez, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui a créé, qui a tout créé. Et Dieu veut que tout soit fait selon ses commandements. Voilà pourquoi il a dit dans l'un des 10 commandements, ne commettez pas d'adultère. Nous ne devons pas commettre l'adultère. Nous ne devons pas commettre la fornication. Vous rappelez l'histoire de Joseph, lorsque la femme de son maître Potiphar cherche à accoucher avec lui, avoir une relation sexuelle avec elle. Joseph a fui. Il a laissé son manteau. Parce que Joseph a voulu respecter Dieu. Il a voulu garder les commandements de Dieu. Chers frères et sœurs et jeunes de l'Église, nous ne devons pas nous laisser exposer à la tentation. Parce que Satan, lui, il va nous tenter. À coup sûr, il va inculquer des pensées de fornication en nous, des pensées d'adultère en nous. Et nous devons comprendre cette stratégie. Mais notre Dieu, un Dieu d'amour, il nous a donné le mariage. Il nous a donné une épouse, un époux. Et nous devons honorer le lit conjugal. Exemple de souillure. Et maintenant, laissez-moi vous révéler un autre principe pour une famille heureuse. Si vous avez besoin, si votre but, c'est d'avoir une famille heureuse, passez du temps en famille. Passez du temps en famille. Sortez ensemble. Planifiez des choses ensemble. Des vacances, des promenades. Et si possible, repas en commun. Parce que les repas en famille doivent être joyeux. Chaque membre partageant les expériences de la journée. Prenez du temps les uns pour les autres. Mari, femme, prenez du temps pour vous-même. Parfois, après le mariage, on a cette tendance, ah bon, et on n'a pas le temps, on est toujours occupé. Bon, il y a la carrière, on ne peut pas vraiment passer du temps avec son épouse. Alors qu'avant le mariage, il y avait toujours des rendez-vous. On prenait toujours du temps pour l'un pour l'autre. Il faut prendre du temps. Non pour vous-même, mais pour plaire votre époux, votre épouse. Vous, jeune femme, jeune dame, épouse, prenez du temps pour vous-même. Prenez du temps pour conserver votre beauté. De même, vous, messieurs, mari, prenez du temps pour vous-même. Cherchez à savoir ce que votre épouse aime de vous, ce qu'elle a apprécié de vous lorsqu'elle vous a rencontré. Et de même pour vous et les dames, prenez du temps pour chercher à plaire votre époux. Le Christ nous a dit dans l'Apocalypse, souvenez-vous, votre premier amour, nous devons nous toujours rappeler notre premier amour, c'est-à-dire lorsque nous sommes rencontrés, la chaleur, l'énergie que nous avons, le zèle que nous avons chacun l'un pour l'autre. Chers frères et sœurs, nous devons penser à ces choses. Et même les psychologues vous diront la même chose. Vous devez prendre soin pour vous-même. pour votre épouse, votre époux. Et maintenant que vous avez des enfants, il faut inclure vos enfants dans vos activités. Prenez du temps de converser à vos enfants, de leur expliquer des choses, surtout des choses bibliques, des choses que Dieu a mis à notre disposition. Prenez le temps de les rapprocher afin qu'ils ne soient pas, qu'il n'y a pas de distance entre vous et vos enfants. Parce que quand il y a des distances, ce qui arrive, vos enfants vont trouver des amis, ils vont aller vers d'autres personnes. Et ces personnes-là n'auront pas leur propre intérêt comme vous, vous avez leur propre intérêt. Il faut prendre du temps, chers frères et sœurs. Vous savez, l'égoïsme est le pire ennemi de la construction d'une famille heureuse. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous voyons beaucoup, dans beaucoup de familles, le mari est égoïste, le mari ne pense qu'à lui-même. La femme, à son tour, est égoïste, elle pense qu'à elle-même. Il y a de la concurrence dans la famille, la rivalité, et qui est le plus éduqué, qui gagne plus d'argent. Et maintenant, le mari a ses amis, ses entourages, et puis la femme, de son côté, a ses amis. Et ce qui est arrivé, la plupart du temps, on voit la femme, maintenant qui parle de son mari, et négatif de son mari, et on voit que le mari, à son tour, qui parle négatif, beaucoup de choses négatives à l'issue de sa femme, et surtout quand il est parmi ses amis, et c'est vraiment triste. Et à la maison, il n'y a pas d'entente, et les enfants sont témoins de tout cela. Les enfants qui, la plupart du temps, aiment leur père, aiment leur mère, et maintenant ils sont obligés de prendre parti. Ils sont obligés d'être au milieu de tout ce qui se passe. Imaginez que si vous aimez quelqu'un en tant qu'enfant, vous aimez votre maman et vous êtes témoin que votre papa est en train d'abuser votre maman. Il est en train de dire des choses et même physiquement abuser votre maman. Et ça a créé beaucoup de cicatrices psychologiques. Ça fait beaucoup de mal dans le cœur des enfants. Et c'est la même chose. Et si l'enfant aime son papa, et puis il voit que sa maman cherche toujours à détracter son papa, à lui dire des choses méchantes, à l'abuser émotionnellement, ah, c'est vraiment pénible, c'est triste. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui se désintéressent à la famille. Et éventuellement, ils quittent le foyer familial parce qu'ils disent qu'ils ne trouvent pas l'amour à la maison et l'attention qu'ils recherchent. Ils ne peuvent pas dialoguer avec leurs parents. Il n'y a pas de communication. Et ils se sentent alors rejetés et abandonnés. Comment s'étonner qu'ils se séparent et se tournent l'un vers l'autre pour trouver la compréhension qu'ils n'ont pas trouvée chez eux auprès de leurs parents? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis de leur maison et ils ne sont jamais retournés. Parce que le foyer familial n'est pas un endroit, n'est pas vraiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur. Les enfants voient que le parent qui se querelle à propos de l'argent, il y a toujours des factures à payer, s'il y a toujours des soucis, il y a toujours de l'incertitude. Et maintenant, ces enfants-là ont des doutes, même à leur avenir. Et nous voyons, il y a beaucoup de jeunes qui se livrent à des stupéfiants, de la drogue et surtout des gangs, parce que ces enfants-là n'ont pas ce qu'il leur faut à la maison. Ils n'ont pas trouvé le bonheur à la maison. Et les sociologues nous disent que l'indifférence des parents à l'égard de leurs enfants est la cause principale du problème de la délinquance juvénile. Une famille unie est une famille qui passe beaucoup de temps ensemble. C'est une famille où chaque membre s'intéresse autant aux autres qu'à lui-même. Une famille soudée est une famille où l'on se préoccupe davantage des autres que de soi-même. Nous devons penser à cela. Nous devons penser non seulement pour nous-mêmes, comme le Christ a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Notre prochain, c'est qui? Notre époux, notre épouse. Si vous êtes marié, c'est votre mari, votre femme. Et si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas marié et vous vivez avec vos parents, ce sont vos parents, ce sont vos proches, des gens qui vous voient chaque jour, qui savent pertinemment tout ce qui se passe dans votre vie. Et le Christ a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et chacun doit pratiquer cette phrase, ce verset, de donner comme le Christ lui a donné sa vie pour toute l'humanité. Et chacun doit comprendre que c'est en partageant la joie qu'on la multiplie et que s'intéressant aux autres qu'on devient un meilleur chrétien, un meilleur membre de l'Église. Le Christ a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et nous devons faire de notre mieux pour servir les autres, surtout les membres de notre famille, surtout notre épouse, notre époux que Dieu nous a donné. Nous avons tous des talents et nous devons les utiliser pour que les autres en profitent aussi. Quand nous avons des talents, nous devons avant tout remercier Dieu d'avoir du talent, d'avoir de la connaissance, d'avoir de l'intelligence. Et nous devons faire de notre mieux, non pour plaire nous-mêmes, mais pour aider les autres, pour servir les autres. La Bible a dit que chacun de nous a des dons. Et parfois, on pense que, bon, si j'ai un don, c'est que je suis important, je suis meilleur que les autres. Non, nous devons utiliser nos dons, utiliser tous les talents que Dieu nous a donnés pour servir. Et Dieu, à son tour, sera glorifié. Comme je vous dis, surtout, chaque membre d'une famille doit respecter les enseignements divins et d'obéir aux commandements que Dieu nous donne dans la Bible. Vous savez, le mot obéissance n'est pas très populaire de nos jours. On ne veut pas parler d'obéissance. Alors, si vous parlez d'obéissance aux gens, c'est que vous êtes un tyran. Beaucoup de gens pensent qu'obéir aux lois les prive de leur liberté. Et ça se convoit dans le média. Et les gens parlent, ah bon, j'ai mes droits. Mais s'il y a des droits, il y a aussi devoirs. Vous savez, et les gens parlent de droits, mais il y a des devoirs, il faut respecter vos devoirs. Et quand on pense que les lois nous privent la liberté, c'est le contraire qui est vrai. Les lois nous protègent contre des dangers. Les lois nous protègent. Elles n'entravent pas notre liberté. Nous, adultes, devons donner le bon exemple à nos enfants en nous soumettant à la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons leur enseigner l'amour divin. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous nous soumettons à sa volonté. Maintenant, c'est un moyen sans faire du bruit. Nous n'avons pas besoin à chaque instant de parler, de prier. Mais ils apprennent de nous, ils apprennent par nos exemples. Et n'oublions pas que la nature humaine a tendance à se rebeller. Elle doit apprendre à se maîtriser et à se contrôler. La discipline est notre meilleur guide pour développer en chacun de nous, quel que soit notre âge, un caractère bon et juste. Et discipliner, c'est respecter les enseignements que Dieu nous donne dans la Bible. Et c'est ainsi que nous serons bénis, nous et les autres membres de notre famille. Nous serons liés les uns aux autres par des sentiments d'amour qui nous permettront de nous comprendre, d'être patients les uns envers les autres, d'être plus attentifs aux besoins des uns des autres. Et comme je vous dis, lors du sermon, ainsi nous serons les meilleurs membres de famille, meilleurs membres de l'Église, meilleurs chrétiens. Veuillez vous reporter à 1 Corinthiens au chapitre 13. Nous allons lire versets 4 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13. Au verset 4. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Ça, c'est la définition de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'amour, l'amour de Dieu. C'est l'amour que Dieu exerce envers vous, envers moi. Dieu est toujours patient envers nous. Dieu montre toujours sa bonté, sa miséricorde. Il dit l'amour ici n'est point envieux. Quand il y a l'envie, quand il y a la jalousie, quand il y a la concurrence, il n'y a pas d'amour. Et je vous assure, quand ces choses existent, il n'y a pas. Le Saint-Esprit de Dieu n'existe pas. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là. Pour nous dans l'Église, quand nous cultivons autre chose, quand nous cultivons la haine, quand nous cultivons la concurrence, l'envie, l'orgueil, la jalousie, la Bible nous dit que nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Et si nous ne nous repentons pas, et nous continuons à attrister le Saint-Esprit de Dieu, finalement, l'Esprit de Dieu nous quitte et nous voyons cela. Nous ne devons pas chercher nos propres intérêts et dans la famille physique, dans notre famille spirituelle, nous devons vivre comme le Christ a vécu sa vie. L'apôtre Jean a écrit, et je cite, dans au chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 22, il a écrit « Tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui. Pourquoi ? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. » Chers frères et sœurs, nous avons cette garantie, cette promesse de Dieu lui-même. Lorsque nous gardons ses commandements, nous n'avons pas besoin de nous soucier de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de faire des soucis à ce que nous allons manger, ce que nous allons nous vêtir. Nous n'avons pas besoin de nous soucier de quoi que ce soit, parce que Dieu sait et Dieu ne demande qu'une chose, de nous soumettre à lui, de nous soumettre à ses commandements, de faire ce qui lui plaît. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, plus que jamais, nous avons besoin de nous approcher de Dieu, car nous vivons dans une époque où les choses vont de mal en pire. Les foyers se brisent, se désagrègent. Le matérialisme pousse les gens à se soucier davantage d'eux-mêmes que de leur prochain. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de respect maintenant dans notre société. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais, chers frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire les changements nécessaires dans nos vies pour avoir une famille heureuse. Oui, nous pouvons avoir une famille heureuse. Nous n'avons qu'à appliquer les principes bibliques, les principes que Dieu nous a donnés. Reportons-nous à Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons commencer au verset 22. Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Comprenez bien ce verset. Chers frères et sœurs, vous, épouses de l'Église, qui sont dans l'Église, Dieu vous a demandé de vous soumettre à votre mari comme au Seigneur. Si vous vous soumettez au Seigneur, Jésus-Christ, votre Seigneur, vous devez vous comporter de la même façon à l'égard de votre mari. Pourquoi? Parce que Dieu le dit. Dieu le dit, il n'y a pas de condition. Sois soumise à votre mari s'il est riche, parce qu'il est riche, il a beaucoup d'argent, parce qu'il peut vous acheter un palais, une grande maison. Il ne dit pas que s'il est costaud, il est bien costaud, s'il fait du sport, il ne dit pas ça. Au verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas une chose, parce que vous choisissez selon vos préférences. Non, elle dit en toutes choses. Et au verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu, le Christ n'a jamais maltraité l'Église. Le Christ n'a jamais, d'aucune manière, si vous aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église, vous n'allez pas maltraiter votre épouse. Vous n'allez pas lui frapper. Vous n'allez pas lui dire des mots qui sont des mots grossiers. Vous n'allez pas dépriver votre épouse de quoi que ce soit. Le verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni de rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà, c'est l'image de l'église qui épousera le Christ à son retour. Une église sans ride. Une église premièrement glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. Et au verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de mariages dans le monde, ainsi que beaucoup de divorces, parce que le monde n'a pas la connaissance de Dieu. Les gens de ce monde n'ont pas la connaissance de Dieu, la connaissance de la Bible. Le mariage est sacré, l'institution du mariage est sacrée. Cela vient de Dieu. Et Dieu nous a donné des instructions précise pour avoir un mariage heureux. Quand nous mettons en pratique ces principes, quand nous pratiquons le mode de vie que Dieu nous a donné, nous sommes heureux. Nous sommes heureux dans notre mariage, nous sommes heureux dans notre famille. Et chers frères et sœurs, nous devons vivre comme le Christ a vécu sa vie. Nous devons apprendre à façonner notre caractère après son caractère. Le Christ, pendant sa vie sur la terre, était humble. Quand on est humble, on ne cherche pas à se vanter. On ne cherche pas ses propres intérêts. Mais on aime, on donne. On partage. Ça, c'est l'amour. Reportons-nous à Philippiens au chapitre 2 pour voir le caractère du Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. On peut commencer au verset 3. L'apôtre Paul nous dit ici au verset 3. Philippiens chapitre 2 verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Chers frères et sœurs, c'est pas facile. Dans notre société, dans notre milieu, de considérer les autres plus que nous-mêmes, parce qu'on a en nous cet esprit de vanité. On veut être le premier. On veut être le plus grand. Mais le Christ, son caractère lui-même, est différent de toutes ces choses. Au lieu de considérer nos propres intérêts, nous devons considérer aussi ceux des autres. Marie, considérez l'intérêt de votre femme. Cherchez les intérêts de votre femme. De même que vous, femme, cherchez les intérêts de votre mari. Quand le mari cherche à satisfaire sa femme, quand la femme cherche à satisfaire son mari, les deux sont heureux. Il y a l'harmonie, il y a la joie, il y a la sécurité. et les enfants vont bénéficier à coup sûr. Mais quand il y a l'égoïsme, ça sert à autre chose. Chacun fait son chemin. Et les enfants en souffrent. Continuons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Christ nous a laissé un exemple que vous et moi, nous devons suivre. Si nous voulons être de la famille divine, si nous voulons être présents avec Jésus lors de son retour, pour rééduquer ce monde, pour changer la course des choses, nous devons commencer par travailler sur ces choses-là. Dans notre famille, dans l'église et partout, chers frères et sœurs, en développant notre caractère. Et nous devons apprendre à nous humilier, à nous débarrasser de notre ego, de nous débarrasser du moi. Nous devons nous chercher à nous débarrasser tout ce qui sont des pierres d'achoppement pour notre croissance spirituelle. Dans toute sagesse, Dieu a créé un mariage. Dieu a créé le mariage. Il a créé un mariage et une famille qui reflète sa propre relation avec Jésus-Christ. Une relation familiale, harmonieuse, paisible et heureuse. Il est important que nous comprenions l'importance de travailler à la construction d'un mariage heureux dès le début. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, que vous et moi, nous nous préparons, nous pouvons nous préparer à rejoindre la famille de Dieu. Non seulement lors de l'apparition de Jésus-Christ, non seulement pendant le règne millénaire du Christ sur cette terre, mais chers frères et sœurs, pour toute l'éternité. Parce que après le millénaire, la Bible nous dit que Dieu va avoir son royaume avec nous sur la terre. Lors de sur la nouvelle Jérusalem, il y aura une nouvelle Jérusalem, il y aura une nouvelle terre. Ce chef et ses sœurs, travaillons ardemment afin que nous puissions être un jour dans la famille de Dieu.